Nous sommes au château. Nous ne pouvons pas toujours savoir ce qui se passe, même en ville. Je ne pourrai donc relater ici que ce qu'on dit autour de nous ou ce que papa nous rapporte du dehors. Maman, qui m'a donné l'idée de commencer ce journal, m'a promis de m'aider à le tenir à jour et de me donner tous les renseignements qui parviendront à sa connaissance. Nous avons quitté le logement que nous occupions en ville le 26 novembre pour nous réfugier dans une casemate du château. C'est tout petit, 4 mètres carrés. Mais nous devons nous trouver heureux d'avoir pu l'obtenir par l'appui du capitaine de Jombert, le capitaine de papa. Nous y avons 3 lits, notre literie, nos caisses, nos malles, une partie de nos ustensiles de cuisine, une provision de bois. Il y fait très humide pour le moment. La première nuit que nous y avons couché, nous avons pleuré toute la nuit, maman et moi. Nous voilà emmurés dans notre casemate. Quand en sortirons-nous? Nous sommes ici à 4. Papa, que son service va retenir constamment dehors. Maman, mon frère Paul, qui n'a que 4 ans. Et moi. Samedi 3 décembre. Le bombardement a commencé ce matin à 7 heures. J'étais sur une rampe du château. J'entends le canon. Un des premiers projectiles manque de me tomber sur le dos. Je me dépêche autant que je peux pour gravir autant que possible, en me baissant, le reste de la rampe menant au château. Pour le premier jour, le bombardement a été très sérieux. Il n'y a que le château qui est répandu au feu ennemi. 5 décembre. Bombardement très vif. Les projectiles pleuvent autour de nous. Papa est toujours dehors. Nous prions Dieu pour sa conservation. Quant à lui, je crois qu'il n'aura jamais peur. Nous avons à Belfort 10 à 12 000 hommes. Nous avons beaucoup de renforts de la Haute-Saône. Quels tristes soldats. Quand ils entendent le canon, ils se cachent où ils peuvent. 15 décembre. Bombardement enragé. Les projectiles passent au-dessus de nous avec des bruits de locomotive. Papa est dehors. Il fait réparer les talus et les ouvrages sous le feu de l'ennemi. Il faut ici s'aguerrir ou mourir, car pour être au château, il ne faut pas avoir peur des coups de canon. Il n'y a que 3 femmes logées dans les casemates au château. La mère du colonel de place, la femme du sous-intendant militaire, et celle du garde du génie. C'est maman. 17 décembre. Bombardement infernal. Un incendie se déclare dans un magasin aux munitions en face de notre casemate. Un projectile avait traversé la voûte et mis le feu dans le magasin. Maman allait voir de temps en temps si l'incendie augmentait. Tout à coup, elle entend papa qui était sur le pont au-dessus de notre casemate. Craignant que papa ne veuille chercher à l'éteindre, maman l'appelle, il descend. Il n'était pas arrivé d'une minute que la poudre qui était dans le magasin fait explosion. Toutes nos vitres volent en éclats. 23-24 décembre. On craint que les Prussiens ne nous offrent pour cette nuit de Noël un drôle de réveillon. Il paraît qu'ils espéraient réveillonner à Belfort, au café des officiers. Mais ils n'y sont pas encore. 25 décembre. Aujourd'hui, fête de Noël. Quelle triste fête pour nous. Nous ne sommes pas sortis de notre casemate depuis bientôt un mois. Nous sommes sales. Il faudrait laver sans eau, mais on n'ose plus en envoyer chercher de peur de faire arriver malheur à celui qui ferait cette périlleuse commission. Dimanche 8 janvier. Bombardement infernal. Nuit malheureuse. L'ennemi a pris d'Anjoutin. On nous annonce depuis quelques jours une armée de secours. Mais nous sommes si habitués au malheur que nous n'osons pas croire à une pareille chance. 13 janvier. Bombardement abominable. On nous envoie sur le château des projectiles monstres. Ils ont 55 cm de haut et doivent au moins peser 80 kg. Cette fois, notre pauvre château commence à dégringoler. Et je commence à croire que nos ennemis en auront bientôt raison. On ne peut plus s'y croire en sûreté, si bien caché qu'on soit. Dimanche 15 janvier. Ah, les voilà, les Français. Nous entendons le bruit de leurs canons. On dit que l'armée de secours est tout près de nous. Qu'elle arrive. Quelle chance. Nous allons être délivrés. Tout le monde met le nez à la porte des caves pour écouter. 20 janvier. Bombardement très vif sur le château. Nouvelle arrivée de ces gros projectiles que nous appelons des enfants de troupe. Ces gros projectiles écrasent tout à l'endroit où ils tombent. Un grand malheur s'est produit. Un magasin à poudre que papa avait fait construire l'automne dernier et qui contenait aussi des munitions a reçu un enfant de troupe qui a traversé la voûte et fait explosion dans l'intérieur. Tout a sauté. Il n'est pas resté deux pierres l'une sur l'autre. Il y a eu beaucoup de morts et de blessés. 21 janvier. Pauvre armée, comme te voilà réduite. Déjà peu fort au moment de l'investissement, décimé d'un côté par la maladie, la petite vérole, la fièvre typhoïde, de l'autre par la mort ou les blessures. Désolation. Les projectiles arrivent sur nous comme la grêle. Bombardement acharné. On dit que l'on bombarde Paris. Nous n'avons plus de nouvelles de nos armées. Les officiers qui habitent la caserne du château déménagent. La caserne menace de s'écrouler. 22 janvier. Nuit abominable. Le canon ne s'est pas tu un instant. Nos forts répondent peu. Les gros projectiles pleuvent sur le château. Il en tombe 4 par minute et avec quels dégâts. Les hommes ne veulent plus sortir de leur casemate. L'armée et les habitants sont démoralisés. Il n'y a plus d'eau au puits du château. 27 janvier. Cette fois, nous pouvons crier victoire. Les Prussiens ont été repoussés hier au Perche avec de grandes pertes. Du château, on voit sur la terre couverte de neige les morts qui jonchent le sol. Vive l'armée active! Il paraît qu'une dépêche est arrivée il y a 2 jours disant que notre armée de secours, bien qu'ayant remporté une victoire à Villers-Excel, n'a pu s'avancer jusqu'à nous à cause de la formidable artillerie des Prussiens. Elle a donc dû se replier. 30 janvier. Maman était en observation à la lucarne du poulailler. Tout à coup, elle entend le bruit d'un projectile qui vient éclater hauteur de ses yeux à quelque distance d'elle. La lueur, le vent et la commotion lui donnent une telle peur qu'elle tombe à la renverse en criant « Au secours, je suis morte !» Elle n'avait rien. 1er février. Le bombardement continue très acharné de part et d'autre. Notre situation est toujours pire. Nous n'avons plus jamais une nouvelle rassurante. Au soir, nouvelle attaque sur les Perches. Toutes nos pièces font feu. L'ennemi bat en retraite. 2 février. Nous n'avons pas encore passé une aussi mauvaise journée depuis le commencement du bombardement. Tout est détruit. Nous ne sommes plus en sûreté dans notre casemate avec ces gros projectiles qui éclatent sans cesse au-dessus de nous et écrasent tout où ils tombent. Ils nous font trembler avec toute notre casemate. Maman est morte de peur. 4 février. Hier, il est venu un déserteur prussien. Il a dit qu'il y avait un armistice pour Paris durant 3 semaines et que Bourbaki avait été complètement battu à Montbéliard. Dimanche 5 février. Bombardement diabolique. Bombes, fusées, pleuvent sur le château. Les nôtres répondent avec vigueur. 8 février. Nous avons abandonné les 2 ouvrages en terre des hautes et basses perches. 9 février. Hier après-midi, les Prussiens ont occupé les Perches. C'était un spectacle inoubliable. Le château et les Perches étaient entourés d'un tel nuage de fumée qu'on n'y voyait pas à 2 pas. 10 février, on dit que les Prussiens sont en train de s'installer sur les revers des hauteurs des Perches et qu'ils préparent une grande quantité de pièces de canon pour anéantir la ville et les habitants avant 10 jours. 11 février, bombardement terrible. Les obus arrivent en plein dans la direction des embrasures et des créneaux de la casemate. Nous ne pouvons plus y rester. Nous allons nous réfugier dans le souterrain des sous-officiers d'artillerie. 13 février. Enfin, ce soir, 9h, on est venu nous annoncer que les hostilités cessaient. Papa descend en ville pour chercher un logement. Nous allons avec lui. Nous n'avions pas vu la ville depuis 74 jours. C'est à n'en pas croire ses yeux. Les rues sont encombrées de débris de bois, de pierres, de tuiles. Il n'y a plus que des ruines, partout.